juste avoir une injonction pour dire bon ben maintenant faut arrêter de prendre la voiture, ok, mais en fait il n'y a pas de possibilité des fois dans certains cas de se sortir de cette dépendance à la voiture, et en fait on n'a pas profité de cette accélération pour passer moins de temps dans les transports, ce qui est un peu contre-intuitif parce qu'en général quand on cherche à aller plus vite bah, c'est pour gagner du temps. En fait, ce qui est assez intéressant dans la fin de vente des voitures thermiques à l'horizon 2035, c'est qu'on aurait pu le voir sous deux angles différents. Est-ce que c'est avant tout la fin du thermique ou est-ce que c'est avant tout la fin de la voiture?
Les transports ont pris une place considérable dans notre société, transformant radicalement notre rapport à l'espace et au temps. Toujours plus vite, toujours plus loin, mais à quel coût? Dans cet épisode, nous allons explorer comment les transports ont évolué à travers l'histoire et les raisons pour lesquelles la voiture s'est imposée sur tous les plans, au point que cette dernière devienne en France le premier secteur d'émissions de gaz à effet de serre. Comment passer du tout bagnole à une mobilité plus sûre, juste, décarbonée et saine? Quelles sont les alternatives existantes qui sont le plus prometteuses? Vous êtes sur le podcast Circular Métabolisme, la chaîne pour mieux comprendre le métabolisme de nos sociétés et leurs impacts socio-environnementaux. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Aurélien Bigot. Il a soutenu sa thèse en 2020 intitulée « Les transports face aux défis de la transition énergétique ». Il a travaillé sur les scénarios de prospective transition 2050 de l'ADEME et finalement Aurélien a écrit le livre « Voiture, Fake or Not » de Tana Edition. Cet épisode est sponsorisé par UMX. Plus de détails plus loin dans la vidéo. Bonjour Aurélien, bienvenue au podcast.
Bonjour, merci de l'invitation.
Peut-être qu'on peut commencer de manière assez simple. Premièrement, c'est quoi le transport ou c'est quoi les transports? C'est quoi la mobilité? Et qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans pour passer autant de temps dessus?
Bonne question. Bah, dans les transports, en tout cas, de manière assez schématique, on a déjà tendance en général à faire deux catégories, avec plutôt le transport de voyageurs, de passagers, et puis le transport de marchandises. Donc, ce sont en fait deux fonctions qui sont hyper structurantes dans nos modes de vie aujourd'hui, en particulier pour le côté voyageur. Donc il y a des questions, ça a été cité, d'aménagement du territoire aussi qui sont extrêmement structurantes. Et en fait, les deux interagissent beaucoup ensemble, les transports avec l'aménagement du territoire, le transport de marchandises avec l'évolution de l'économie. Donc il y a des rôles extrêmement structurants comme ça. Et moi, la manière en tout cas dont je suis arrivé sur ce sujet-là, c'est essentiellement par les sujets énergie-climat. Parce qu'en effet, les transports, c'est de l'ordre de 30% des émissions de gaz à effet de serre en France. Donc en termes d'atténuation, c'est un défi qui est absolument majeur au vu de cette part, premier secteur en France. On commence à être sur une tendance plutôt à la baisse si on regarde que les émissions directes des transports. Mais il y a des défis majeurs parce que les baisses ne sont pas du tout suffisantes, en tout cas par rapport à ce qui est fixé dans les objectifs. Du coup, on a eu tendance à repousser les objectifs dans le secteur des transports vu qu'on n'atteignait pas ce qui était prévu.
Belle stratégie, ouais. C'est quoi certaines variables qui seraient intéressantes qu'on regarde quand on regarde le passé, l'avenir, l'accélération, le ralentissement?
Oui, en fait, quand on regarde l'évolution passée de nos mobilités, on peut regarder ça sur différents critères. Moi, j'en utilise souvent trois différents qui sont regarder notre mobilité sous l'angle du nombre de déplacements qu'on peut faire par jour et par personne. Ça, c'est resté assez stable historiquement. Donc, on fait de l'ordre de 3 à 4 déplacements par jour et par personne en moyenne sur l'ensemble de la population. En comptant que si, par exemple, on fait un aller-retour, c'est 2 déplacements. Ouais. Des fois, on fait des boucles de déplacements, 3 à 4 déplacements qu'on peut appeler chaînés. Et donc, ça, c'est un premier critère qu'on peut regarder. C'est resté relativement stable historiquement en nombre de déplacements. Un autre critère qu'on peut regarder, c'est combien de temps on passe dans les transports. Et ça, c'est un autre élément qui est resté assez stable historiquement, autour de 1 heure.
C'est quoi ta fourchette de temps quand tu parles de historiquement?
Historiquement, en gros, les quantifications que j'ai cherché à en faire, en tout cas, c'est sur les 2 derniers siècles, parce que c'est 2 derniers siècles sur lesquels il y a eu des évolutions majeures et l'introduction notamment de nouveaux modes de transport. En gros, il y a 2 siècles, on avait essentiellement la marche et puis en complément le transport attelé, mais qui restait quand même plutôt une petite partie de la mobilité comparée à la marche. Et puis progressivement, à partir en gros des années 1830-1840, il y a eu le chemin de fer qui est apparu, qui s'est développé très progressivement. Les débuts du vélo, c'est il y a un petit peu plus de 2 siècles en Allemagne, l'ancêtre de la bicyclette, en gros, c'était en 1817, donc il y a un petit peu plus de 2 siècles. Mais son vrai développement s'est fait à partir des années 1870, en gros. Et puis, à la fin du 19e siècle, dans les années 1890 et suivantes, il y a l'automobile qui a commencé à se développer, puis à avoir un peu plus de volume de production, puis sa diffusion réellement s'est faite à partir des années 50. L'aérien aussi, qui lui est arrivé pour le coup plutôt au début du 20e siècle, donc il y a environ un siècle. Et en tout cas, on a eu sur les deux derniers siècles, donc une certaine stabilité à la fois en nombre de trajets, une stabilité aussi en temps de transport, donc autour de 1 heure par jour et par personne en moyenne, en ordre de grandeur. Et par contre, l'autre critère, l'autre caractéristique de nos déplacements qu'on peut aussi regarder, c'est celle du nombre de kilomètres parcourus par jour et par personne ou au total. Et ça, par contre, ça a énormément varié. Et en fait, ce qui fait que ça a varié, c'est qu'on a beaucoup accéléré les mobilités. Et en fait, on n'a pas profité de cette accélération pour passer moins de temps dans les transports, ce qui est un peu contre-intuitif, parce qu'en général, quand on cherche à aller plus vite sur un trajet donné, c'est pour gagner du temps. On fait ce trajet avec moins de temps de déplacement. Mais du coup, le fait d'aller plus vite et de pouvoir accéder plus rapidement à certaines destinations, on en a profité pour aller plus loin, pour accéder à un territoire plus vaste. Et c'est là où le lien transport, aménagement du territoire est extrêmement fort. C'est que du coup, on a profité de cette mobilité pour étendre nos activités sur un territoire plus vaste. D'où des tendances à l'étalement, éparpillement des logements, des activités, etc., sur un territoire beaucoup plus vaste que quand on était à l'échelle de la vitesse de la marche, où du coup, avec notre heure de transport par jour, on avait entre guillemets un droit à 4 km par jour en moyenne. Aujourd'hui, on est plutôt quasiment à 50 km parcourus par jour et par personne, tout déplacement confondu. Une heure de transport à 50 km heure, du coup, on fait 50 km par jour. Donc ça a été vraiment une tendance majeure sur ces dernières années, ces dernières décennies même. L'accélération, comme j'évoquais, c'est surtout à partir du début des années 50, la diffusion en tout cas des modes de transport rapide, c'est vraiment à partir de ce moment-là, essentiellement via le développement de la voiture, parce qu'en 1950 on avait une voiture pour 25 habitants, donc à ce moment-là il y avait déjà eu un développement de la voiture, ça faisait déjà un demi-siècle que la voiture était en train de se développer plus ou moins, mais plutôt réservée aux plus riches encore à cette période-là, et c'est vraiment à partir des années 50, les 30 glorieuses, on voit vraiment l'explosion de la motorisation des ménages jusqu'à en arriver à une voiture pour 2 habitants en France au début des années 2000, et même maintenant le ratio est même encore un petit peu supérieur à ça, on est à plus d'une voiture pour 2 habitants, en sachant qu'aujourd'hui dans nos mobilités, aussi bien en nombre de trajets qu'en temps de transport qu'en kilomètres parcourus, la voiture domine très largement parce qu'elle représente quasiment 2/3 de nos mobilités sur ces 3 différents critères-là.
Donc, il y a une succession de technologies qui ont permis également cette transition de mobilité, si on veut.
Oui.
En filigrane, il y a aussi la transition énergétique qui s'est passée.
Tout à fait.
Après le charbon, il y a eu le pétrole. Donc, on voit qu'il y a une espèce de couplage ou une espèce de facilitation ou permettre tout simplement que ces modes de mobilité existent ou pas. Si on n'a pas l'énergie qui va avec, on n'a pas ce type de transport.
Oui, tout à fait. C'est vrai que quand on regarde en tout cas les énergies utilisées pour la mobilité, comme la marge dominait très largement pendant, donc j'évoquais encore il y a 2 siècles, mais en fait ce qui est assez surprenant pour le coup quand on regarde nos mobilités sur les décennies plus récentes, c'est qu'encore en 1950 et avant le boom justement, la diffusion de la voiture, plus de 80% de nos temps de déplacement en 1950 c'était encore de la marche. Donc finalement, le fait de passer de cette mobilité active où la propulsion était humaine, c'était directement nos corps qui nous déplaçaient sans même d'outils particuliers à part, disons, nos chaussures, ça, c'était encore le mode de transport dominant il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a 3 générations des personnes qui ont connu ça, qui sont encore vivantes aujourd'hui. C'est pas une évolution qui date d'il y a si longtemps que ça. Et après, dans les autres modes de transport qui ont été utilisés, un peu comme dans l'agriculture, il y a eu du coup la traction animale avec le transport attelé par les chevaux essentiellement, qui ça du coup a subi une accélération, comme je l'évoquais avant même qu'on développe le ferroviaire, qui est souvent vu comme le premier outil d'accélération des mobilités. Mais en réalité, en fait, c'est assez dingue, en fait, l'accélération qu'il y a pu y avoir via du transport attelé plus rapide, parce que typiquement, sur du Paris-Bordeaux, en gros, ce qu'il faut compter, c'est qu'à l'époque, du coup, une personne qui se déplaçait à pied sur des voyages à plus longue distance, alors des voyages, c'était réservé à très peu de personnes ou à des marchands, à des fonctions très particulières, etc., ou des aventuriers qui pouvaient faire des distances plus longues. Mais en gros, il fallait compter 50 km par jour. En gros, c'était ça, l'ordre de grandeur. Et aujourd'hui, ce serait à peu près la même chose. Déjà, il faut être en bonne condition physique. Donc, 50 km par jour. Donc, par exemple, Paris-Bordeaux, ça se faisait en 2 semaines, par exemple. Et le transport attelé, sélectionnant des races de chevaux plus, quelque part, avec une capacité physique plus importante, en ayant des travaux sur les infrastructures pour avoir des infrastructures qui permettaient aussi d'aller plus vite, ou encore via des organisations différentes, typiquement de ne plus avoir des nuits à certains hôtels sur l'ensemble du trajet, mais en enchaînant vraiment le trajet, alors dans des conditions de confort qui étaient vraiment extrêmement spartiates, ils se faisaient balader vraiment dans des machines où vraiment ils passaient un voyage assez horrible, mais progressivement ce transport a été accéléré avec les relais de chevaux aussi, pour faire en sorte que si les chevaux sont épuisés, ils restent là, on prend des nouveaux chevaux pour aller à l'étape suivante, etc. Et en gros, le temps de transport Paris-Bordeaux qui est passé en gros de 14 jours à 1 jour et demi seulement avec l'accélération du transport attelé. Et en fait, là où on peut, en fait, de notre point de vue d'aujourd'hui, le transport attelé, même rapide, nous paraît lent. Mais en fait, il faut comprendre qu'à l'époque, passer de 14 jours à 1 jour et demi, il gagne 12 jours et demi. Ouais. Donc quand aujourd'hui, on passe, par exemple, il y a quelques années, à la ligne à grande vitesse sur le Paris-Bordeaux, on gagne quelques minutes. Avant, c'était un progrès qui s'est fait en quelques décennies. En nombre qu'on pouvait compter en nombre de jours, par exemple, sur Paris-Bordeaux. Donc, ce qu'on voit, en tout cas, c'est qu'il y a eu cette accélération déjà sur le transport attelé. Il y a eu cette envie de voyager, cette envie du lointain, cette envie de la vitesse qui est arrivée notamment via le cheval, via l'accélération du transport attelé, dans le sens où ça a donné envie d'aller chercher cette vitesse et ces destinations plus lointaines. Ça, c'est ce qui est très bien étudié et raconté dans un livre que j'ai beaucoup aimé utiliser pour ma thèse de Christophe Studeni, un livre qui s'appelle « L'invention de la vitesse » et qui revient beaucoup sur cette historique-là. Et en gros, donc, il y a eu cette période-là où déjà on a eu cette première accélération qui a donné envie de la vitesse. Et puis ensuite, il y a eu une sorte de phase d'invention de nouveaux modes de transport, tels que je l'évoquais tout à l'heure, avec l'invention du vélo, du train, de la voiture, de l'autocar, de l'avion, etc. Tout ça s'est fait, en gros, à peu près du début du 19e siècle au début du 20e siècle. Mais en fait, quand on regarde en distance moyenne ou en vitesse moyenne au début du 19e siècle, au moment où on s'est déjà commencé à faire des avions, on a déjà des voitures qui roulent, etc. Si on ramène ça à l'ensemble de la population, en réalité, on était encore à des distances extrêmement faibles parce qu'il n'y avait pas eu de diffusion de cette vitesse. C'est-à-dire que techniquement, elle nous était accessible, mais par contre, économiquement, en termes de développement, et c'est là aussi où vient l'énergie, en termes aussi d'accès à l'énergie pour propulser cette vitesse plus importante, eh bien, il n'y avait pas encore eu les développements et la croissance exponentielle qu'on a pu avoir dans les décennies suivantes, et essentiellement, du coup, sur la deuxième moitié du XXe siècle, avec la croissance de la voiture, et sur les toutes dernières années, même c'est depuis le début des années 2000, en gros, on est un plafonnement sur l'usage de la voiture, par exemple, en France, et ce qui a tendance à apporter la hausse des kilomètres parcourus, désormais, c'est plutôt le transport aérien, donc surtout hors effet Covid. Après, il faut voir comment ça évoluera dans les années à venir, mais en tout cas, sur l'année 2019, quelque part, on était sur l'année où on a parcouru le plus de kilomètres par jour et par personne historiquement. Donc après, il faut voir si 2022, 2023 et les années qui suivent, on va retrouver ce niveau-là post-Covid. Mais en tout cas, on est un peu dans cette ère de l'hypermobilité. 10 à 12 fois plus de kilomètres parcourus aujourd'hui qu'il y a 2 siècles, parce que cette vitesse, du coup, 10 à 12 fois plus élevée en moyenne, quoi.
Et en termes de transport de marchandises, ça a suivi une même histoire, plus ou moins ?
Alors, en termes de transport de marchandises, en effet, on a des modes de transport qui se sont beaucoup suivis en termes d'usage. Là où on peut voir une différence assez majeure, c'est notamment sur l'usage du transport maritime. Alors, je suis justement en train de creuser dans ces données-là parce que c'est assez difficile sur le transport de passagers, par exemple, de s'y retrouver aussi là-dessus. Mais sur le transport de marchandises, en tout cas, on a eu finalement aussi l'utilisation de la traction animale aussi un minimum, ou de transport de marchandises qui, dans tous les cas, était à des échelles beaucoup plus locales. Et puis, le maritime a pu se développer, le ferroviaire aussi se sont développés pour étendre ce transport de marchandises à la fois en distance, mais aussi en masse possible à transporter, ouais. Donc une sorte de massification qui a été très progressive, hein, encore, c'est encore une fois, entre le moment où on invente le mode de transport ou le nouveau type de propulsion, pour le transport maritime, il y a eu différents types de propulsion assez variés, finalement, entre des bateaux qui, aussi via l'esclavage, etc., étaient propulsés par les hommes à la rame, ou des bateaux propulsés par le vent, donc de l'énergie renouvelable, ou des bateaux qui ont été propulsés par des machines, des bateaux à vapeur, donc aussi par du charbon, puis ensuite qui sont passés au pétrole, puis peut-être dans les années, décennies à venir, des carburants de synthèse, on verra ce que ça donne là-dessus, mais c'est un peu ça les perspectives qui sont évoquées. Mais donc on a eu des sortes de transition énergétique, mais encore une fois, c'est là où on peut déconstruire un peu le terme de transition énergétique, ou en tout cas d'empilement, ou en tout cas de remplacement, qui ont permis toujours cette croissance des flux, à la fois en distance et aussi en tonnes transportées, ce qui va avec, plus globalement, comme j'évoquais tout à l'heure, les évolutions qu'on a eues dans l'économie, ont développé ce commerce international, qui était déjà quand même assez fort il y a plus d'un siècle, et finalement, avant même l'arrivée du pétrole, alors ça a vraiment démultiplié, mais il y avait déjà des échanges entre les différents continents finalement depuis des siècles, mais dans des échelles qui n'avaient rien à voir avec celles qu'on peut avoir aujourd'hui.
Ouais. J'imagine qu'il y a aussi une très forte relation entre transport et industrie, ou transport et guerre, ou et transport et... Parce que si je comprends bien, le train était là d'abord pour transporter du charbon, les voitures ou les véhicules thermiques, c'était quand même pas mal lié à la guerre, enfin après la Première Guerre mondiale. Enfin, j'imagine qu'il y a aussi des histoires où d'abord c'est très niche et après ça devient une massification une fois que la guerre s'arrête. Enfin, c'était comme ça pour l'agriculture, quoi, en tout cas.
Oui, complètement. Il y a un lien assez fort quand même d'une année sur l'autre entre le PIB et les flux de marchandises. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit assez bien historiquement. Et puis des interactions, par exemple, entre le système ferroviaire et le charbon, à la fois parce que le ferroviaire transporte beaucoup de charbon, mais parce que le ferroviaire a besoin de charbon aussi pour avancer dans les machines à vapeur qui pouvaient être utilisées. D'ailleurs, il y a eu un petit peu de traction animale aussi via des chevaux au tout début du ferroviaire, mais ça n'a pas duré très longtemps. Et puis, des interactions sur un peu des deux côtés, quoi. Finalement, à la fois, il y avait besoin du charbon pour construire les voies de chemin de fer et faire rouler les trains, et puis en même temps, du ferroviaire pour transporter le charbon, qui est un pondéreux, qui a besoin aussi de modes de transport massifiés pour pouvoir aller de la mine jusqu'au lieu d'utilisation de consommation.
Ah ouais, c'est vraiment ce cercle vertueux ou vicieux.
Oui, selon comment on voit les choses. Ouais. Exactement. Et ça me fait penser juste à une petite parenthèse, c'est que on se pose la question dans les autres... finalement lien avec le transport ou ces longues distances, c'est aussi sur l'information, les communications. Et il y a souvent des questionnements de savoir finalement à quel point le fait de développer davantage des communications efficaces permettra de remplacer des transports, etc. Typiquement, quand on réfléchit au télétravail, aux visioconférences, etc., il peut y avoir une pertinence, en effet, à remplacer des transports lointains par cela. Mais en tout cas, historiquement, ce qu'on a tendance à observer, c'est plutôt qu'il y a un développement... simultané des deux en même temps, c'est-à-dire que plus on a des communications à longue distance, plus ça encourage aussi à aller à longue distance, et du coup plus les transports à longue distance se développent et plus il y a d'échanges de marchandises et de personnes aussi qui voyagent sur des longues distances, plus ça amène à avoir de la communication aussi sur ces longues distances. Donc finalement les deux aussi, en plus du transport de passagers, du transport de marchandises, on pourrait ajouter presque une autre couche un peu moins visible, un peu moins matérielle, bien qu'il y ait aussi des flux matériels là-dessus, mais autour de la communication, de l'information également, qui va un peu dans ce même mouvement global, en tout cas à l'augmentation des flux ou des distances finalement de flux physiques et autres.
Ouais, c'est assez intéressant ce couplage qu'on peut voir. Il y a quand même un point qui reste super étonnant, c'est cette limite, ce plafond de 1 heure par jour. Enfin, il y a la conjecture de Zahavi, il y a plein de personnes...
C'est ça le terme qui est souvent donné, exactement.
Ouais. Ça, c'est peut-être une limite sociologique ou psychologique. C'est pas du tout une limite physique, quoi. On aurait pu continuer 1, 2, 3 heures, mais on voit que... Voilà, on a profité de l'accélération pour s'étendre un maximum, mais finalement, maintenant, on arrive plus ou moins à ses limites. Cette heure-là, elle est quand même assez... elle va se généraliser sur la planète.
En gros, c'est déjà assez généralisé. En tout cas, la conjecture de Zahavi, ça vient justement d'un chercheur de la Banque mondiale qui a d'abord observé ça à l'échelle de villes dans des endroits très diversifiés dans le monde, avec du coup des niveaux de développement entre guillemets assez variés, où il observait à chaque fois finalement des durées quotidiennes de l'ordre d'une heure par jour et par personne. Et donc ça, on le voit à la fois dans des contextes assez variés, mais c'est aussi ce qu'on voit historiquement et même anthropologiquement. Il y a aussi des travaux qui montraient que ça pouvait être cet ordre de grandeur-là aussi, finalement dans des cultures très différentes à celles qu'on peut avoir actuellement, ou des niveaux de développement assez différents. Et en fait, là où c'est assez important dans la transition, et c'est pour ça d'ailleurs, quoi, en gros, moi, le troisième chapitre de ma thèse était sur la question de la vitesse, justement, parce que en fait, cette accélération des mobilités qui a permis cette augmentation des distances, elle est valable en gros jusqu'au début des années 2000. Si on prend que les transports intérieurs à la France, et il y a eu une saturation, un plafond justement sur la vitesse moyenne des mobilités, à un moment donné où en fait ce qui a permis pour beaucoup l'essentiel de l'accélération des mobilités, c'est le fait qu'on se tourne vers des modes de transport plus rapides, donc essentiellement via la voiture. Et on peut voir deux autres facteurs qui influencent la vitesse moyenne de nos mobilités, c'est le fait qu'on a développé des infrastructures plus rapides. Donc c'est que là, sans forcément changer de mode de transport, bien l'utilisation de la voiture, c'est plus forcément dans des rues et des petites routes, mais de plus en plus sur autoroute. Et du coup, à des vitesses bien plus élevées qui permettent de faire augmenter aussi cette vitesse moyenne des mobilités. Et le troisième facteur que j'ai essayé un petit peu d'isoler dans des quantifications que j'ai pu faire là-dessus, c'était quelle est la vitesse pratiquée par type d'infrastructure. Donc c'est-à-dire si je prends la voiture sur les autoroutes, ou bien la voiture en ville, ou bien le train sur les lignes à grande vitesse, ou bien sur les lignes classiques, etc., à quel point ça a évolué. Et en fait, là-dessus, il y a eu beaucoup moins d'évolution forte ou très structurante, c'est-à-dire que dès le début des autoroutes, on était déjà, il y a quelques décennies, à des vitesses qui étaient finalement assez similaires à celles d'aujourd'hui. Bon, en général, les voitures n'étaient pas toujours assez puissantes, quelque part, pour aller aussi vite. Mais en tout cas, ce qu'on a vu sur ces vitesses par infrastructure, et vraiment l'élément le plus structurant qu'on a là-dessus, c'est que à partir du début des années 2000 en France, il y a eu la politique des radars sur les routes à partir de 2003, et que ça a fait chuter de manière assez forte quand même les vitesses pratiquées sur les routes. En gros, pour les routes aussi bien à 130, à 110 qu'à 90 km/h, quand il n'y a pas d'obstacle, donc la vitesse qu'on pratique sans encombrement, etc., elle a perdu 7 km/h. Donc c'est quand même assez fort comme baisse sur un laps de temps de 2-3 ans, en gros, dans les 2-3 premières années de la mise en place des radars. Et que comme ça a touché, en gros, essentiellement la voiture, le mode de transport vraiment très largement dominant dans les temps de transport, dans nos mobilités, etc., et que ça a concerné un peu tous les types de routes, même si on tient compte du fait que voilà, on ne roule pas toujours à vitesse maximale, etc., qu'il y a de la congestion, etc., et bien en fait, la vitesse moyenne de nos mobilités, sur le début des années 2000, a baissé. Et là où c'est intéressant, et là où ça fait le lien avec la transition énergétique, c'est qu'en fait, au même moment, les kilomètres parcourus ont baissé. C'est assez logique parce que du coup, on cherche à ne pas trop augmenter nos temps de transport. Donc si la vitesse baisse, bah, potentiellement, on va baisser un peu les kilomètres parcourus. C'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Et du coup, au même moment, les émissions de CO2 ont baissé aussi. Et finalement, jusqu'à maintenant, à ma connaissance, il n'y avait pas forcément de travaux qui faisaient le lien justement entre cette baisse des émissions de CO2 de la mobilité des voyageurs en France et la question de la vitesse. Alors, c'est pas le seul facteur, hein. Il y avait déjà cet effet de saturation dans tous les cas. Il y a aussi, mais un petit peu plus tard dans les années 2000, il y a l'augmentation du prix des carburants, et on sait que ça peut jouer aussi sur les kilomètres parcourus. Et là où on peut faire un lien avec la transition énergétique, c'est aussi qu'il y a tout un tas de tendances ou de leviers qui auraient plutôt des effets de ralentissement sur les mobilités. Donc si je dis ça, le premier élément auquel on pense, c'est le 110 km/h sur autoroute. Ce serait une mesure de court terme particulièrement efficace. On peut penser aux autres politique de modération des vitesses aussi en ville, les zones à 30 km/h, voire zones de rencontre à 20 km max, le 80 km/h sur les routes de zones rurales, etc. Donc il y a ce premier effet-là, mais il y a deux autres effets qui sont toujours qui peuvent être un peu en lien, mais typiquement le fait de se tourner vers des modes de transport plus sobres et potentiellement moins rapides, comme par exemple quand on va davantage vers la marche, davantage vers le vélo, ce qu'on a intérêt à faire dans la transition. Si on ne fait pas ça que dans le centre des plus grandes villes, et on a intérêt à le faire aussi dans des zones moins denses, il y aura plutôt un effet de ralentissement. Et puis le troisième effet, c'est l'interaction entre en gros la vitesse et les kilomètres parcourus, dont j'ai déjà pas mal parlé, et le lien avec l'aménagement du territoire, le lien avec les modes de vie. Pourquoi il y a vraiment des interactions pour le coup. Les deux vont vraiment ensemble, comme j'évoquais. Si on va plus vite, on va plus loin. Si on va moins vite, typiquement les radars, on va moins loin. Et dans la transition, si on essaie de planifier justement le fait de vivre davantage en proximité au quotidien, d'avoir des voyages moins lointains, eh ben ça va aussi se traduire par des vitesses qui sont moins importantes. Jusqu'à maintenant, on a fait l'accélération qui a été dans le sens de la hausse des émissions, parce que le fait d'augmenter nos distances parcourues, c'est ça qui a été le principal facteur de hausse des émissions de CO2. Et à quel point, maintenant qu'on veut faire la forte baisse des émissions de CO2, à quel point il faut essayer plutôt de réduire les kilomètres parcourus et du coup réduire la vitesse. Les deux vont ensemble, mais on peut le voir dans un sens ou dans l'autre, mais en tout cas, potentiellement d'avoir aussi un ralentissement à l'avenir dans le cadre de cette transition.
Mmh. Tu as parlé quand même de saturation de vitesse. On peut réfléchir, est-ce qu'il y a saturation du stock également ou pas ? Est-ce que le stock va continuer à augmenter ou pas ?
Stock notamment de véhicules ou de...
Ouais, d'autoroutes,
d'infrastructures.
Ouais. Le stock matériel, est-ce qu'il va continuer à augmenter ou est-ce qu'on arrive vraiment à saturation ? Ça, c'est un peu ce que tout le monde espère dans le côté extraction des ressources. C'est qu'au bout d'un moment, on a un stock mature et on n'a plus besoin de construire. Sauf qu'en réalité, ce n'est pas exactement ce qui se passe. Par exemple, il y avait pour les, si je me souviens bien, pour les trains, tu notais qu'il y avait 60 000 km de ferroviaire en 1920 et aujourd'hui, on en a la moitié, alors qu'au niveau des kilomètres parcourus, c'est beaucoup plus, quoi. Donc, il y a cette espèce de quelque chose de contre-intuitif où on diminue la quantité de masse, mais on accélère sur ce qu'on a, quoi.
Oui, complètement. Alors sur le ferroviaire, en effet, on a des niveaux de pratique d'usage du ferroviaire qui sont restés relativement stables sur les dernières années, dernières décennies, bon, un peu en grosse masse, gros ordre de grandeur. Mais en effet, les kilomètres parcourus sont plus importants. C'est qu'en gros, on passe toujours autant de temps dans les trains, en particulier pour les trains de longue distance. Typiquement, le fait de développer le TGV, ça n'a pas forcément fait qu'on a fait beaucoup plus de trajets à longue distance ou qu'on a passé plus de temps dans les trains de longue distance. Mais par contre, comme on a été bien plus vite dans ces trains, eh bien, avec ce même temps de transport, on a été beaucoup plus loin. Donc, les kilomètres parcourus par personne en train, typiquement, n'ont jamais été aussi élevés qu'aujourd'hui en France. Mais par contre, en effet, on a été vers des trains de plus en plus rapides, des trains de plus en plus capacitaires. On a beaucoup massifié, et finalement, c'est à la fois un intérêt d'un point de vue environnemental, mais beaucoup d'arriver aussi par les aspects économiques, d'aller sur une intensité d'usage du réseau qui a été du coup beaucoup plus forte. Donc on a concentré les trafics là où il y avait les flux de déplacement les plus forts, à l'intérieur des grandes métropoles, typiquement les RER, les métros, etc., ou bien entre les grandes métropoles avec les intercités et puis de plus en plus les TGV. Donc on a eu en tout cas un développement qui a fait un usage, qu'on a eu un usage du train bien plus fort en kilomètres parcourus sur un réseau en effet qui s'est rétréci, parce qu'avant le ferroviaire irriguait beaucoup plus le territoire, parce qu'on avait aussi ce besoin à l'époque, parce que c'était le principal mode de transport de longue distance. Le problème, c'est qu'on a tellement développé la voiture, et c'est évidemment avant tout la voiture en fait qui a entraîné cette baisse du réseau ferroviaire. On peut regarder aussi quelles évolutions il y a eu à l'intérieur du ferroviaire, mais c'est vraiment que la voiture il y a tellement une hégémonie de la voiture, a tellement pris toute la place dans les déplacements, que forcément, il n'y a plus les mêmes flux de personnes qui voudraient utiliser le ferroviaire à partir du moment où les gens sont dans leur voiture. Et puis, on a des trajets du coup, qui ne sont plus adaptés au ferroviaire parce que la voiture a permis cette sorte d'éparpillement, ces trajets porte-à-porte qui ne nécessitent plus forcément de penser son mode de vie, ses lieux d'activité, de logement, etc., en fonction d'une ligne de transport en commun, alors que c'était davantage le cas si jamais on n'avait que sur la longue distance ces transports ferroviaires.
Parlons comment la voiture a rendu ringard ou obsolète ou même dangereux tous les autres modes de transport. Enfin, même pour le vélo, aujourd'hui, on ne se sent pas tout le temps en sécurité quand on est à proximité des voitures. J'imagine qu'il y a certaines étapes structurantes qui ont permis la domination et puis l'exclusion ou en tout cas l'obsolescence des autres. Même parmi les voitures, il y avait la voiture électrique qui existait avant la voiture thermique. Quelles ont été ces interactions, quelles ont été ces espèces d'étapes qui nous ont vraiment verrouillés dans le tout voiture ?
Si on regarde quels sont les facteurs qui ont fait qu'on s'est rendu autant dépendant à la voiture ou qu'elle a pris autant de place, on peut en citer plusieurs. Alors tout d'abord, les avantages un peu intrinsèques à la voiture. Mmh. Finalement, intrinsèque, c'est toujours un peu en comparaison avec les autres modes de transport avec lesquels elle est en concurrence. Il y a le fait que c'est un mode de transport rapide. Ça, c'est extrêmement structurant parce que quand ça a remplacé essentiellement la marche, donc allez, 30-40 fois plus rapidement que la marche. Le fait que c'est un mode de transport porte-à-porte, donc ça c'est vraiment un avantage par rapport au transport en commun, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de besoin d'aller jusqu'à une station, d'attendre potentiellement un train, un car, etc. Mais on peut aller de son lieu d'origine jusqu'au lieu de destination en une seule fois. Il y a le fait qu'il y a des conditions de confort qui sont assez fortes, d'autant plus avec des véhicules qui ont été de plus en plus pensés pour cela. Un coût qui n'est pas si élevé que ça, en tout cas pour une majorité de la population, un coût qui reste supportable pour que les personnes puissent s'acheter un véhicule pour une grande partie de la population, en tout cas. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas malgré tout des contraintes financières, surtout quand on en est dépendant, etc. Et ensuite, dans les facteurs qui ont rendu possible ce développement de la voiture, on peut citer la hausse des revenus, c'est-à-dire qu'au début, et notamment dans la première partie du XXe siècle, où on avait déjà des voitures, on savait les fabriquer, mais où ce n'était pas encore un mode de transport de masse, c'était réservé aux plus riches, c'était un objet plutôt de luxe, etc. Parce que, voilà, il n'y avait pas une capacité financière de l'ensemble de la population d'acheter ce type de véhicule et d'avoir aussi de supporter les coûts d'usage. Ensuite, un autre facteur, c'est l'énergie, en effet, on l'a évoqué, avec le pétrole, qui a rendu possible un peu accès finalement à une énergie abondante et bon marché, qui a permis de faire cette diffusion de l'automobile. Il y a le fait que de plus en plus, on a développé un réseau d'infrastructures qui permet à la voiture, dans des conditions de confort, et aussi bien depuis la ruelle jusqu'à l'autoroute, finalement, d'irriguer l'ensemble du territoire avec un réseau fortement hiérarchisé, fortement développé, etc., qui permet d'aller un peu partout. Donc ça aussi, ça a supporté forcément son développement. Si on n'avait pas construit d'autoroute, par exemple, en France, les gens ne partiraient pas aussi loin en vacances en voiture, par exemple. Parce que justement, pareil que sur la courte distance, le temps qu'ils sont prêts à louer à leur transport pour partir en vacances ou sur des mobilités longue distance est aussi limité par certains aspects. Donc il y a ces éléments-là en lien avec les infrastructures ou plus globalement l'aménagement du territoire. Pourquoi on en est dépendant aujourd'hui ? C'est beaucoup en lien aussi avec ça, c'est-à-dire qu'on a construit notre aménagement du territoire par la voiture, c'est-à-dire que si on s'est autant étalé, dispersé, etc., c'est parce que la voiture est un mode rapide qui permet du coup d'aller plus loin, et porte-à-porte qui permet du coup de se disperser un peu partout sur le territoire sans forcément penser à un urbanisme le long de certains axes de transport en commun, etc. Donc ça, on a construit un urbanisme de ce type-là, que je résume un peu rapidement, mais voilà, il y a un peu ces facteurs-là notamment, qui du coup sont, une fois qu'on est dans cet aménagement du territoire-là, qui rendent un peu prisonnier de la voiture, parce qu'une fois que, par exemple, on habite dans le périurbain, un endroit où il n'y a ni ligne de transport en commun autour de soi, et qu'on a des distances de 15, 20, 30 km à faire par jour, etc., bah à la fois ça disqualifie les transports en commun s'il y a cette dispersion, et ça disqualifie du coup la marche et le vélo, typiquement. L'hégémonie de la voiture et la place qu'elle a prise dans la mobilité a marginalisé les autres modes de transport. C'est-à-dire ça les a rendus soit trop dangereux, par exemple, pour le vélo en zone rurale, en zone périurbaine, soit pas assez de monde pour faire des transports en commun efficaces partout sur le territoire, soit des distances trop importantes justement pour utiliser les modes actifs comme la marche et le vélo. Donc il y a une marginalisation aussi de ces autres modes de transport. Donc une fois, en gros, c'est un aménagement du territoire par la voiture et pour la voiture, une fois qu'on est un peu prisonnier de cet aménagement du territoire. On a un peu la même chose sur les modes de vie, c'est-à-dire qu'on a développé nos modes de vie, nos programmes d'activité autour de la voiture, et du coup, si du jour au lendemain on se dit « bon, le défi environnemental maintenant, c'est d'utiliser moins la voiture », eh bien en fait, on est potentiellement coincé dans des programmes d'activité, des lieux d'emploi, d'habitation, d'emploi, d'activité pour aller faire les courses, les loisirs, etc., qui en fait ne fonctionne qu'à condition qu'on ait à disposition une voiture. Ouais. Et du coup, forcément, de juste avoir une injonction pour dire « bon, ben maintenant, il faut arrêter de prendre la voiture », ok, mais en fait, potentiellement, ça bouleverse les modes de vie où il n'y a pas de possibilité, des fois, dans certains cas, de se sortir de cette dépendance à la voiture. Et après, dans les autres facteurs qu'on peut évoquer, il y a le fait que d'un point de vue économique, le secteur a pris une importance majeure, que du coup, il y a beaucoup d'emplois, des activités économiques qui sont liées à ça. Donc aujourd'hui, ça peut être l'influence aussi du lobbying pour aller contre certaines évolutions qui viendraient à limiter l'usage de la voiture, limiter le poids des voitures, parce que Les constructeurs ont intérêt à vendre des voitures plus haut de gamme, plus lourdes, etc. Donc il y a un certain nombre aussi de tendances dans ce sens-là. Et puis en même temps, c'est une vraie question, bien évidemment, en termes d'emploi, d'activité économique. Bah, si jamais on a cette décroissance de l'usage de la voiture, etc., bah, comment on fait cette transition d'un point de vue économique ? Donc ça peut être un frein aussi à la transition qu'on peut bien observer dans un certain nombre de cas actuellement. Et puis il y a les aspects qu'on pourrait appeler plus culturels autour de la voiture. C'est-à-dire que à la fois la publicité, à la fois le cinéma, à la fois tout l'environnement qui est autour de la voiture, les passions automobiles qu'il peut y avoir, qui sont assez diversifiées, aussi bien finalement un attachement à la voiture, aussi bien dans des élites, des clubs automobiles un peu d'élite, mais aussi finalement dans des milieux beaucoup plus populaires avec le tuning, etc. Quoi, je caricature peut-être un peu les choses, mais il y a des cultures.
Un président qui dit qu'il adore la bagnole, quoi.
On est attaché à la bagnole. On aime la bagnole. Et moi, je l'adore.
Exactement, et ça c'est peut-être la meilleure illustration pour montrer qu'aujourd'hui, même un président, alors que c'était la veille en plus de présentation d'une stratégie climat qu'il a dit ça, il y a une difficulté à imprimer finalement d'autres imaginaires autour de la voiture que celui du fait que c'est le progrès, que c'est ça a été beaucoup véhiculé aussi par la publicité de telle manière, hein, c'est le progrès, c'est la liberté, etc. On pourrait décortiquer l'aspect liberté autour de la voiture, mais toujours avec des spots publicitaires sur lesquels il n'y a qu'une voiture sur une route totalement vide. Typiquement, ça c'est même carrément mensonger. Et puis le fait que la voiture ou la place que ça a pris nous prive de tout un tas de liberté aussi. Typiquement, on peut se dire, est-ce que quelqu'un qui habite en zone rurale ne devrait pas avoir la liberté de se déplacer en vélo aussi, par exemple, dans ces zones rurales. Aujourd'hui, il n'y a pas cette liberté-là. C'est trop dangereux pour énormément de personnes. Donc la dépendance à la voiture, par exemple, prive de ce type de liberté-là. Encore plus important, presque, et encore moins questionné, la liberté pour les enfants de jouer dans l'espace public. C'était possible avant l'arrivée de véhicules plus rapides. Alors ça a pu être les chevaux pendant un temps, puis surtout les voitures qui font apprendre aux enfants dès leur plus jeune âge que la voiture c'est dangereux et que il faut pas trop qu'ils sortent tout seuls dans la rue ou qu'il faut a priori tout le temps être en alerte parce qu'en effet l'espace public est devenu dangereux et en fait on leur a privé d'une certaine liberté qui est quand même assez majeure. Et puis le fait que ce soit un véhicule particulièrement coûteux et que le mode de transport est beaucoup fait pour la voiture, ça fait que des personnes qui n'ont pas les moyens de se payer une voiture, potentiellement sont dans des situations de précarité mobilité particulièrement fortes et qu'elles n'ont pas la liberté de déployer le programme d'activité qu'elles le voudraient avec des offres de transport qui sont adaptées à leurs revenus ou à leurs envies, si on peut aussi avoir envie de ne pas utiliser la voiture pour des raisons environnementales, pour tout un tas d'autres raisons qui ne sont pas forcément de l'ordre de la contrainte. On peut aussi questionner là-dessus, mais c'est sûr que cette culture automobile a pris une place extrêmement forte et même, on le voit chez les politiques, ils ont énormément de mal à remettre en question ça. Et puis, il y a des passions sur l'ensemble des modes de transport. Il y a des passionnés de ferroviaire, des passionnés d'aérien, de vélo. Donc, c'est un peu commun à tous les modes, mais dans un moment où il faut qu'on réussisse à limiter l'usage de la voiture et de l'avion, c'est particulièrement problématique d'avoir même des discours qui sont très loin du rationnel, de dire « j'adore la voiture » et du coup, quelque part, on ne peut même pas attaquer cet objet-là, ou on ne peut même pas imaginer un avenir différent que celui de sa promotion perpétuelle, quelque part.
Ouais. Cet aspect culturel, je pense que il n'est pas innocent, ni les pubs, ni tout ça. Enfin, il y a quand même de gros lobbies qui sont derrière la voiture. Alors, j'ai essayé de creuser, j'avais eu un cours d'urbanisme il y a 20 ans. Je n'ai pas réussi à trouver, mais il y avait un cycle entre les autoroutes et le pétrole. Et il y avait une taxe, c'était aux États-Unis dans les années 30 ou quelque chose comme ça, où il y avait le fait de construire plus, ça permettait de consommer plus d'essence. Il y avait une taxe de l'essence qui était donnée aux routes et qui avait cette espèce de cycle de macadam, je me souviens plus de ce nom là
il y a en tout cas on peut appeler ça un peu le système automobile où il y a différents types d'acteurs, à la fois des infrastructures des infrastructures de routières, de l'énergie, des véhicules, de tous les services liés à l'automobile. Il y a aussi beaucoup d'emplois dans tous les services, alors à la fois services de vente, services de réparation, etc., les assurances, Il y a quand même beaucoup d'emplois aussi dans ces parties-là.
C'est quoi, c'est 2 millions, tu disais, quelque chose comme ça ?
2 millions, c'est globalement, c'est des chiffres de mémoire de l'Union routière française sur l'ensemble du système routier. Donc ça inclut aussi, si je ne me trompe pas, les chauffeurs routiers, les conducteurs de transport en commun routier, etc. Donc là, c'est assez large. Si on réduit sur la partie production des véhicules, ou quoi, un peu plus autour de la voiture, on va être sur un ordre de grandeur moins élevé. Il y a aussi une bonne partie de l'industrie automobile qui a été en baisse assez forte. Donc là, il y a aussi des baisses d'emplois très fortes de ce point de vue-là. Mais c'est sûr que d'un point de vue économique, ça représente un secteur qui est assez majeur. Et bien souvent, c'est pour ça aussi que le secteur est aussi mis en avant. Et dans les discours d'Emmanuel Macron, c'est ce qu'on entend beaucoup aussi. À chaque fois qu'il parle de transport, en fait, il parle d'industrie, il parle d'économie, il parle de réindustrialisation, il parle de compétitivité, il parle de gigafactory. Mais ouais. Il parle pas de la mobilité des gens, à quel point... C'est pas ça le sujet qui ressort. C'est vraiment un sujet de transition très technologique, mais de soutien globalement à l'industrie ou plus globalement à la filière automobile. Et typiquement, on peut le voir même sur des élus qui, quand ils sont élus au niveau national, ils vont avoir un discours sur la voiture et sur un soutien à l'industrie automobile qui va être bien plus fort. Et s'ils ont des responsabilités locales et qu'ils ont à gérer toutes les nuisances de la voiture en ville, la pollution de l'air, la consommation d'espace, la pollution sonore, le fait que ça prend tellement d'espace que ça limite la possibilité d'avoir à la fois d'autres modes de transport plus vertueux, mais aussi davantage de végétation, mais aussi d'autres usages de l'espace public, uniquement un espace de circulation, de stationnement des véhicules, etc. Eh bien, en fait, les politiques, dans ce genre de cas de contexte local, ils vont être beaucoup plus... on pourrait dire anti-voiture, mais en tout cas avoir des politiques qui vont beaucoup plus sur la restriction de l'usage de la voiture que quand ils sont au niveau national, où là ça va être plutôt des discours assez favorables et des politiques plutôt assez favorables envers l'industrie. Il y a un peu cette sorte de double discours ou un peu de manque de clarification autour de la transition, mais c'est quoi qu'on veut en fait comme avenir pour la voiture, quoi. Du coup, est-ce que c'est vraiment plus de soutien et vraiment continuer à développer son usage, ou est-ce qu'on assume de vouloir faire baisser son usage?
Oui, cette schizophrénie, elle existe pour tous les secteurs, je pense. Oui. Ce local global ou ce local national.
Oui.
Tu viens de toucher quelques externalités négatives ou en tout cas les impacts de la voiture. Donc c'est vrai que la liste est assez longue, et puis il y en a certaines, elles sont, comme tu disais, locales, d'autres, elles sont plutôt globales, c'est-à-dire que la pollution d'ici... via les GES, les gaz à effet de serre, c'est plutôt au niveau global, alors que la pollution de l'air, c'est local au local. Donc, chaque impact est un peu différent, quoi. Et il y en a de toutes sortes, quoi. Il y en a des sanitaires, il y en a des...
Ouais, il y a beaucoup d'impacts assez différents. Il y a des impacts environnementaux, quoi, si on veut essayer un peu de catégoriser, des impacts environnementaux. Il y a des impacts sociaux, notamment en termes d'inégalités d'accès à la mobilité ou d'impacts divers que ça peut avoir. Des impacts sur la santé. Donc là, via la pollution de l'air, la pollution sonore, la sédentarité, une activité physique, l'accidentalité, on peut mettre aussi au moins en partie dans des impacts de santé. Via la consommation d'espace et le manque d'espace vert, etc., c'est aussi indirectement des questions de santé. Et puis là, ça rejoint aussi beaucoup des questions de qualité de vie, en fait, plus globalement. Et c'est pour ça aussi qu'au niveau local, finalement, il y a plus souvent ces volontés de réduire l'usage de la voiture. Après, ce qui est important, c'est de voir qu'en fait, ces différents impacts, ils font système quelque part. Et c'est le système automobile, ou en tout cas d'une mobilité grandement qui repose grandement sur la voiture, qui produit un peu simultanément ces différents types de nuisances. Et on peut pas forcément un peu le rêve qui peut y avoir entre guillemets des discours de transition technologique, c'est de se dire que on va garder le même système, mais bon, on va juste changer un petit bout, on va enlever le pétrole et on va mettre l'électrique à la place, et on verra que ce sera bien mieux parce qu'il y aura plus de pollution de l'air, plus d'émissions de gaz à effet de serre, on va même y gagner sur le bruit. Donc ça, c'est les trois vrais avantages qu'il y a. Mais en fait, il reste tout un tas d'autres nuisances, par exemple sur la voiture électrique. Bon, bah, le fait de changer de motorisation, ça change rien à la consommation d'espace et donc les impacts biodiversité qu'il peut y avoir aussi hein, via la l'artificialisation des sols, via la fragmentation des espaces naturels liés aux infrastructures linéaires, ce qui est valable aussi pour le ferroviaire, mais on a beaucoup moins de kilomètres d'infrastructures quelque part. Si jamais voilà, on passe uniquement de la voiture thermique à la voiture électrique en termes de transition, ben, on n'y gagne pas non plus en termes d'accidentalité, en termes d'inactivité physique, donc ces impacts-là sur la santé. D'un point de vue du coût global de la mobilité, ça reste assez similaire. Hein. La voiture électrique est plus chère à l'achat, beaucoup moins chère à l'usage. Au global, ça a tendance un peu à s'équilibrer. Ça dépend quelles aides on met aussi sur l'achat, par exemple, ou est-ce qu'on achète neuf ou d'occasion. Bref, on peut voir un peu différents éléments, mais en tout cas, le coût global est assez similaire. Et puis là où il y a un nouveau défi, c'est sur la question des ressources. À la fois, on va beaucoup moins utiliser de pétrole. Donc de ce point de vue-là, c'est tout à fait positif parce qu'il y a tout un tas de contraintes là-dessus et d'impacts environnementaux, sociaux, géopolitiques. Mais en fait, on va avoir tendance à recréer d'autres types de dépendances, plutôt sur les métaux, avec aussi d'autres impacts du coup, ben, environnementaux, sociaux, économiques, géopolitiques, etc. en lien avec ça. Donc on voit en tout cas, dès qu'on prend un regard un petit peu plus large que... disons uniquement une transition climatique, que déjà en fait la transition technologique ne répond pas du tout à tous les défis de transition. Et même si on raisonne que sur le climat, la seule électrification des voitures clairement ne suffira pas du tout pour différentes raisons. Mais on voit bien que si on élargit le spectre, bah, y a des thématiques sur lesquelles juste ça changera rien. On aura toujours, si on veut une qualité de vie en ville ou même dans les villages qui soit meilleure, plus de végétation, etc. Bon, bah, c'est pas en passant à l'électrique que ça résoudra ça, quoi, par exemple.
Toi, tu as également via la stratégie SNBC, donc stratégie nationale bas carbone. Il y a 5 grands leviers qui sont identifiés et tu as un peu joué sur ces leviers pour voir un peu leur impact. Est-ce que tu peux nous parler de ces 5 leviers et qu'est-ce que tu trouves en jouant dessus, quoi?
Oui, alors sur les 5 leviers, en tout cas, finalement, j'ai pu en parler un petit peu de ces différents leviers jusqu'à maintenant. Ouais. Les 5 leviers, c'est pour le premier d'entre eux, c'est la demande de transport. Donc si on veut réduire les émissions, la modération de la demande de transport, donc des kilomètres parcourus pour les voyageurs, des tonnes kilomètres transportées pour les marchandises. Ensuite, le deuxième levier, c'est ce qu'on appelle le report modal, c'est-à-dire se reporter vers des modes de transport moins impactants, donc moins d'utilisation des poids lourds, moins d'utilisation de l'avion et de la voiture, et puis davantage de modes actifs avec la marche, le vélo, les transports en commun, ou bien le fret fluvial et ferroviaire, ou bien plutôt le maritime que l'aérien, par exemple sur le transport longue distance de marchandises, ou bien plus de vélo cargo plutôt que des camionnettes, par exemple sur les plus courtes distances. Donc il y a différents effets de report modal. Ensuite, le troisième levier, c'est d'améliorer le remplissage des véhicules, c'est de se dire que quitte à faire circuler des véhicules, autant que ce soit des véhicules bien remplis. Et là où il y a le principal levier, c'est notamment sur le covoiturage, à la fois parce que la voiture domine les émissions des transports, mais aussi parce que le remplissage moyen des voitures est particulièrement faible. En général, on a des voitures de 5 places, mais 9 automobilistes sur 10, par exemple sur le domicile travail, sont seuls dans leur voiture. Donc il y a une marge d'optimisation là-dessus qui est extrêmement, extrêmement forte. Ou bien sinon, l'autre marge d'optimisation, hein, si on se dit que nos véhicules sont trop peu remplis, c'est-à-dire qu'on peut avoir des véhicules plus sobres, plus légers. Donc ça rentre dans le quatrième levier, c'est de se dire si une bonne partie de notre mobilité repose sur la voiture individuelle et qu'on a des difficultés, bien souvent pour l'instant, à développer le covoiturage de manière massifiée, notamment sur la mobilité de courte distance, donc il faut pouvoir le développer autant que possible, mais il y a aussi potentiellement de revoir à la baisse les exigences qu'on va avoir en termes de poids du véhicule, de nombre de places à l'intérieur du véhicule, de vitesse de ces véhicules, d'autonomie en véhicule électrique, etc. Donc ça, c'est une partie aussi pour réduire les émissions, donc de baisser les consommations énergétiques des véhicules, soit via la sobriété sur ce type de véhicule ou sur les vitesses pratiquées, hein, quand on évoquait le 110 km/h, ou bien une autre partie qui est à l'intérieur de ce grand levier de baisse des consommations énergétiques, et une autre partie plus technologique, qui est typiquement d'améliorer le rendement des moteurs, ce qu'on a pas mal fait par le passé sur les véhicules thermiques, ou ce qui peut être permis aussi par l'électrification, quand on raisonne en énergie finale, les moteurs électriques sont plus efficaces que les moteurs thermiques, donc ça ce sera un peu le levier là-dessus, pour réduire les consommations d'énergie des véhicules à l'avenir. Et puis le cinquième et dernier grand levier, c'est de décarboner l'énergie. c'est là de faire en sorte de sortir du pétrole, qui aujourd'hui représente plus de 90% des consommations d'énergie du secteur, pour aller vers des énergies moins carbonées, donc l'électrique, l'hydrogène, le biogaz, les biocarburants, ou encore les carburants de synthèse, à condition bien sûr à chaque fois que ce soit produit de manière aussi bas carbone que possible et de manière durable, si on veut voilà, que ça a un intérêt dans la transition de manière générale d'utiliser ces énergies-là.
Ce qui est intéressant, c'est que tu les positionnes dans un axe oui. sobriété technologie également. Quoi. Donc,
c'est ça. Ouais. C'est un peu ça, en effet, l'exploration entre technologie et sobriété, c'est que ces cinq leviers, en gros, les premiers leviers sont plutôt des leviers de sobriété, et les 1,5 derniers leviers, en gros, c'est que en gros, demande de transport, modérer les kilomètres parcourus, c'est de la sobriété, se reporter vers des modes de transport plus sobres aussi, aller plutôt vers du covoiturage plutôt que de l'autosolisme aussi, des véhicules plus sobres ou de l'éco-conduite ou 110 km/h, etc. On peut mettre un peu toute cette partie-là dans la sobriété. Et puis, l'efficacité énergétique sur les moteurs ou encore l'électrification, ça, on peut mettre plutôt sur les volets technologiques. Après, on peut discuter un peu tout ça parce que, quelque part, il y a des fois des interactions. Par exemple, une partie des oppositions, d'ailleurs, à la voiture électrique sont sur le fait que ça va demander trop de changements d'usage. Alors que c'est plutôt une solution quand même technologique à la base, mais il y a quand même des changements parce que l'autonomie limitée, etc., implique certains usages un petit peu différents. Et on aura d'autant plus de gains, d'ailleurs, au global, à l'électrification, si jamais on combine ce facteur technologique avec la sobriété. Donc, en gros, tout doit aller ensemble. Ça, c'est le message, vraiment, si on veut réussir à faire cette transition pour éviter les effets rebonds, en gros, qu'il y ait un facteur qui s'améliore, mais on compense sur l'autre, etc. C'est vraiment simultanément agir sur l'ensemble des cinq leviers. Parce que si on prend le recul historique justement de regarder cette dernière décennie, ce qui s'est passé, eh bien en gros les leviers de sobriété ont surtout été dans le mauvais sens, c'est-à-dire que la demande a augmenté, ça a été vraiment le facteur majeur à la hausse, hein, de très loin devant les autres, c'est ça le principal facteur d'évolution des émissions de CO2 des transports, aussi bien pour la mobilité des voyageurs que la mobilité le transport de marchandises sur les dernières décennies, hein. Il y a vraiment un lien très fort entre émissions de CO2 et demande de transport, donc ça a plutôt eu tendance à augmenter. Il y a eu assez peu de politiques publiques qui ont été orientées quand même vers le fait de modérer cette demande de transport, hein. C'est un peu le tabou alors que c'est le principal facteur jusqu'à maintenant, quoi. Ça, ouais. C'est un peu déjà quelque chose d'assez intéressant qu'on peut observer. Et puis, dans les autres leviers de sobriété, report modal, mais il s'est plutôt fait dans le mauvais sens au global parce que davantage vers la voiture, récemment de plus en plus aussi vers le transport aérien, vers le transport routier aussi côté marchandises. Le remplissage moyen des voitures a baissé. Par contre, il a plutôt eu tendance à augmenter pour les autres modes de transport, mais souvent en allant vers des modes de transport plus capacitaires, c'est-à-dire on prend un véhicule plus gros, donc forcément on peut mettre plus de personnes à l'intérieur ou plus de tonnes de marchandises à l'intérieur. Donc, il y a l'exemple pour le transport aérien, on a été vers des avions de plus en plus gros qui permettent aussi de réduire les coûts, le maritime aussi, le ferroviaire également, à la fois sur les voyageurs et sur les marchandises. Et finalement, là où c'est un peu contradictoire sur le paradoxe sur la voiture, c'est qu'on a aussi été vers des voitures plus grosses, mais qui sont moins remplies en nombre de passagers à l'intérieur, parce qu'on a plutôt déco-voituré historiquement en termes de tendance. Donc ça, c'est un autre levier plutôt de sobriété qui a été plutôt dans le mauvais sens. En tout cas, le principal effet, c'est sur le covoiturage, et ça a été dans le mauvais sens. Et sur la sobriété des véhicules, en tout cas, ça n'a pas non plus été dans le bon sens, puisqu'on a des véhicules de plus en plus gros. Et les leviers technologiques, quoi, essentiellement pour l'instant, c'était l'amélioration du rendement des moteurs thermiques, comme j'évoquais. Ça a été dans le bon sens, mais pas du tout de manière suffisante pour faire fortement baisser les émissions, et encore moins pour être aligné avec nos objectifs climatiques des toutes prochaines années ou même à plus long terme. Donc c'est en ça où à l'avenir, vraiment, il faut combiner l'ensemble des cinq leviers. Tous les leviers n'ont pas les mêmes potentiels. Et non seulement parce que en tendance, ils vont pas forcément avoir la même évolution. Sur la demande de transport, en tendance, ça pourrait toujours augmenter sur certains aspects. Alors, il y a de la saturation sur certains modes, notamment sur la voiture, ça pourrait plus forcément augmenter beaucoup, mais sur l'aérien, si on laisse faire, potentiellement, les trafics vont continuer à augmenter fortement. Ensuite, on a sur le report modal ou sur le remplissage des véhicules, par exemple sur le covoiturage, ça, quand on regarde sur ces dernières années, c'est en gros, on n'a plus beaucoup d'évolution, on n'a pas d'évolution vraiment majeure, donc en tendanciel, ça bouge pas énormément. Et sur le volet technologique, ça dépend comment, quoi, sur les deux derniers leviers, ça dépend comment un peu on voit les évolutions plus récentes. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'impact très fort de ces leviers-là, de baisse de consommation, baisse de consommation énergétique par le passé de manière assez régulière, mais sur la décarbonation de l'énergie, Il y a eu un peu de transfert vers les biocarburants qui, en réalité, n'ont pas été vraiment très favorables d'un point de vue climatique quand ce sont des biocarburants en concurrence avec les usages alimentaires. Et pour l'instant, l'effet de l'électrification, donc là, c'est plus récent, hein, cette montée de l'électrification, c'est un effet qui est assez faible pour l'instant sur les émissions directes parce que la diffusion de la voiture électrique, finalement, dans l'ensemble du parc, est assez faible. Donc ça rejoint l'élément tout à l'heure de à quel point techniquement on est capable de faire les choses, mais en termes de diffusion, des fois ça prend des années ou même des décennies. Mais c'est 15 ans, c'est extrêmement court. En fait, entre fin de vente 2035 et puis fin dans le parc en 2050, parce que la durée de vie moyenne déjà d'une voiture, aujourd'hui, la durée de vie moyenne de mise au rebut des voitures qui vont à la casse, en gros, c'est 19 ans. Mmh. Et comme ça, c'est une moyenne, ça veut dire qu'il y en a d'autres, c'est encore plus long que ça. Donc, ça veut dire si on comptait juste la durée de vie moyenne et qu'on ramenait à 19 ans et qu'on voulait arrêter les consommations de carburant liquide, pétrole ou biocarburant en 2050, bah, il faudrait fin de vente en 2031, quoi. Ouais. Et encore, il faudra encore plus tôt si on compte le fait que voilà,
la vraie moyenne.
Donc il y a en tout cas une transformation qui est très forte sur ce volet technologique avec un certain volontarisme à la fois sur la voiture, à la fois aussi de plus en plus sur les autres modes de transport, y compris sur l'aérien, sur le maritime, d'avoir des pourcentages d'incorporation. Alors c'est beaucoup au niveau européen qu'il y a eu finalement ces transformations, ces politiques les plus fortes finalement sur ces volets technologiques. Mais ce qui est assez malheureux, c'est qu'il n'y a pas du tout un équivalent aussi ambitieux sur les volets de sobriété. Et c'est pour ça que dans le secteur des transports, on loupe progressivement nos objectifs climatiques. Et c'est pour ça que, sans rupture assez forte, on continuera à louper, à mon avis, nos objectifs dans les années à venir. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est un petit peu caché et ce qui fait qu'on n'est pas si... Sur l'année 2022, on est repassé au-dessus des objectifs qui étaient prévus. En gros, 2020, les émissions ont chuté en France avec le Covid. 2022, on est repassé au-dessus de la courbe, mais pas énormément au-dessus. Mais en gros, on était alors toujours un petit peu dans le rebond post-Covid, notamment sur l'aérien. Bon, après, l'aérien international n'est pas compté dans les objectifs français de neutralité carbone, ce qui est d'ailleurs un biais particulièrement fort. Mais il y avait toujours un peu certains effets de rebond post-Covid. Et surtout, c'est des années où les prix des carburants sont particulièrement élevés et où du coup, ça a pu limiter un petit peu cette demande de transport, ces kilomètres parcourus. Donc si aujourd'hui, on n'est pas si loin que ça de nos objectifs climatique, c'est parce que en gros on a subi des évolutions extérieures, le Covid, les prix des carburants particulièrement élevés, et donc ça a été voilà des sortes de contraintes. Alors que le plan quelque part qu'on voit dans la stratégie nationale bas carbone, c'est vraiment on continue à se déplacer de plus en plus, notamment via la technologie. Et en gros, ce qu'on a observé, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que ce qui nous permet de pas être trop loin de nos objectifs climatiques, c'est qu'on a plutôt eu tendance à réduire la mobilité via Covid, prix des carburants, et par contre, qu'on a pris énormément de retard sur un renouvellement du parc vers des véhicules plus vertueux. Ce qui était prévu, c'est notamment que ce soit dans un premier temps et à court terme, des véhicules, certes, toujours pour beaucoup thermiques ou hybrides, mais majoritairement thermiques, mais moins consommateurs d'énergie, mais avec des hypothèses qui étaient en réalité assez irréalistes, si on ne comptait pas très fortement sur la sobriété du type de véhicule qu'on vendait pour atteindre ces objectifs-là. Donc on a eu énormément de retard, en fait, sur ces dernières années, sur ce qui était prévu dans la stratégie nationale bas carbone, sur ce facteur-là. Et en fait... Quelque part, heureusement pour les objectifs climatiques, entre guillemets, que ça a été compensé par une moindre mobilité, mais en fait, ça s'est fait de manière subie, donc pas de manière positive, structurante, et du coup, pas forcément des évolutions de suffisamment long terme, en tout cas pour que ce soit quelque chose de planifié qui puisse permettre d'être pérenne, en fait, et du coup, de vraiment contribuer sur le moyen long terme à nos objectifs climatiques, si c'est juste une sorte de restriction qui n'a pas été faite de manière vraiment très favorable en termes d'évolution qui ont eu lieu.
Petite pause avant la prochaine partie pour parler du partenaire de cette vidéo, la chaîne UMX. Comme vous l'avez entendu dans cet entretien, la mobilité est responsable pour environ un tiers des émissions de gaz à effet de serre, en France, mais aussi en Europe. Si nous voulons rester en dessous des 1,5 degrés, c'est un secteur que nous devons complètement transformer. Et c'est là qu'intervient UMX ou Urban Mobility Explain. Cette chaîne YouTube propose des vidéos toutes les semaines sur les impacts environnementaux et sociaux de la mobilité, ainsi que des solutions qui existent à travers l'Europe. En plus, une partie de notre entretien avec Aurélien sur les véhicules intermédiaires va paraître sur leur chaîne mardi prochain. Le lien vers leur chaîne et la vidéo d'Aurélien seront dans la description. Bonne découverte et de retour à la vidéo. On rate les coches ou les bonnes occasions pour être ambitieux, quoi.
Ouais.
Et parce que 2035, si c'est de l'électrique, ça veut dire que ça nous verrouille pour encore 20, 30 ans d'électrique. Parce que est-ce que l'idée, c'est de remplacer tout le stock par de l'électrique? Est-ce que partiellement, est-ce qu'on va réduire le stock? Enfin, on va venir dans un tout petit peu par rapport aux prospectives, mais ça demande un autre épisode. Mais est-ce que physiquement, c'est possible de se projeter vers un remplacement d'un stock si on négligeait les externalités? Est-ce que c'est faisable?
Alors peut-être déjà pour réagir sur le... En effet, on loupe peut-être le coche, etc. C'est qu'en fait, ce qui est assez intéressant dans la fin de vente des voitures thermiques à l'horizon 2035, c'est qu'on aurait pu le voir sous deux angles différents. Est-ce que la fin de vente des voitures thermiques, est-ce que c'est avant tout la fin du thermique ou est-ce que c'est avant tout la fin de la voiture, quoi, quelque part? On peut en tout cas décortiquer les deux. Et en fait, très majoritairement, en effet, c'est évoqué, c'est mis en avant dans le sens de fin de vente du thermique, mais il n'y a pas du tout l'équivalent de la réflexion sur la voiture. Alors pour le coup, ce ne serait pas pour faire fin de vente des voitures, parce que c'est trop radical, impossible presque par rapport à notre dépendance, mais en tout cas de penser les politiques de réduction forte aussi de cet usage-là, de penser à la fois le volet technologique et le volet sobriété, et aujourd'hui il n'y a que le volet technologique. Après, sur le « est-ce que cette transition, elle est faisable ?» ce qui est toujours difficile, c'est que c'est à certaines conditions, en effet, à quel point on souhaite ces conditions ou pas, à certains impacts environnementaux, à certains impacts sur d'autres aspects de la société, d'un point de vue économique, d'un point de vue social, etc. Quels sont les impacts qu'on a derrière? Moi, j'ai tendance à penser qu'elle n'est pas forcément impossible d'un point de vue physique. Donc c'est elle est potentiellement possible, mais pas forcément souhaitable en tout cas de juste faire cette transition que de 38 millions de voitures thermiques à 38 millions de voitures électriques en France. Sur les besoins en tout cas en métaux, qui est un peu une question centrale d'un point de vue physique sur la transition vers la voiture électrique ou de l'électrification de manière plus globale, parce qu'en plus de plus en plus, c'est une parenthèse mais qui est pas si négligeable que ça, on pourra éventuellement y revenir, mais de plus en plus, y compris donc les véhicules utilitaires légers, donc les camionnettes, etc., sont comptés dans cette fin de vente à l'horizon 2035. Donc déjà, c'est des volumes qui sont quand même pas négligeables en France. On est de mémoire à peu près à 5 millions de véhicules utilitaires légers en France, comparé aux 38 millions de voitures, mais c'est des véhicules un peu plus gros, donc qui consomment un peu plus aussi. Et de plus en plus, les poids lourds aussi sont envisagés davantage en électrique. Ça encore, il y a quelques années, c'était très difficile de s'y repérer, quelle motorisation, quelle énergie allait être privilégiée. De plus en plus, c'est envisagé que ce sera l'électrique qui sera la motorisation dominante sur ce type de mode de transport-là, donc avec aussi des besoins de ressources importants. Après, ce qui est difficile, c'est à quel point on pose la question des ressources à l'échelle de la France ou à l'échelle plus globale, parce que quelque part, l'échelle de la France, c'est qu'une toute petite partie de la question. En tout cas, sur les métaux, dans ce qui peut ressortir, c'est que potentiellement, on peut avoir assez de ressources en métaux pour faire cette transition vers l'électrique, donc assez de stock au global, mais potentiellement des contraintes beaucoup plus fortes, peut-être sur les flux. C'est-à-dire, je fais souvent un parallèle avec le pétrole là-dessus, c'est-à-dire que sur le pétrole, on a encore beaucoup trop de pétrole, notamment par rapport à nos objectifs climatiques, même si on raisonne en nombre d'années qui nous resteraient à consommation constante, on est sur quelques décennies, etc. Pour autant, en termes de flux, on a déjà eu des chocs pétroliers dans les années 70, donc c'était pas hier, ça fait longtemps qu'on a des contraintes extrêmement fortes en termes de flux sur le pétrole. Donc on voit en tout cas qu'il y a déjà des contraintes très fortes sur les flux sur le pétrole, alors qu'on a toujours tendance à se rassurer avec un stock qui, c'est bon, il est suffisant, etc. Et je pense que c'est vraiment la même chose, et c'est le même parallèle sur les métaux, c'est que potentiellement, on peut regarder les stocks et se dire, non, c'est bon, c'est rassurant, potentiellement, on en a assez pour faire la transition énergétique de manière générale, la transition vers l'électrique également. Mais si on regarde en termes de flux, là, ça se complique quand même pas mal, parce que, en termes de flux, les prospectives, c'est des augmentations, des multiplications de besoins. Alors, il faudrait citer tout un tas de chiffres différents différentes échéances et les différents métaux, parce que quelque part dans les transports, on se sépare d'une dépendance qui est celle du pétrole, donc c'est un peu facile, entre guillemets, disons, en tout cas, il n'y a pas trop de ressources différentes sur lesquelles il y a les plus grosses contraintes. Quand on passe à la question de l'électrique, des batteries et des métaux nécessaires aux batteries, là, on complexifie énormément les choses et le nombre de dépendances et le nombre d'impacts différents selon les métaux, les enjeux géopolitiques qu'il peut y avoir, etc. D'autant plus qu'on ne peut pas raisonner à technologie de batterie constante parce qu'il y a déjà aujourd'hui une cohabitation de différentes technologies de batterie qui ne nécessitent pas les mêmes métaux et on sait que c'est un domaine qui évolue quand même assez rapidement. Il y a un certain nombre de changements dans les marchés, dans les marchés ou dans le type de diffusion des différentes technologies de batterie, aussi selon les types de contraintes qui sont observées en termes de contraintes sociales. Par exemple, il y a eu beaucoup de, à juste titre, de dénonciations du travail des enfants dans les mines, dans certaines mines artisanales de cobalt en République démocratique du Congo, etc. Donc typiquement, de plus en plus, les industriels se sont détournés des chimies qui étaient intenses en cobalt. On cherche à la fois des batteries qui sont plus denses énergétiquement, donc qui permettent d'emporter plus d'énergie, en même temps qui ne reposent pas sur des métaux critiques, qui sont plus sécurisées, qui sont plus facilement recyclables, qui sont moins coûteuses. Donc il faut arbitrer entre un peu tout ça. On n'aura pas de batterie miracle, on n'aura pas vraiment de batterie sans impact. Mais en tout cas, selon les contraintes qu'il peut y avoir, il peut y avoir un peu des réorientations. Et donc sur ces flux, là où c'est plus compliqué, c'est que ça croise un grand nombre de problématiques. En gros, il y a des problématiques de montée en cadence, montée en puissance de la production de ces métaux, parce que la demande est en très forte hausse sur un certain nombre de métaux, qu'il va falloir mettre en production des nouvelles mines. Ça, c'est assez clair, au vu de cette augmentation des besoins en métaux, et qu'il y a souvent des temps nécessaires à l'ouverture de mines qui peuvent être assez importants entre le moment où on explore et le moment où la mine entre en production. Donc ça peut aller de 5, 10 ans, 15 ans, etc. C'est ça des fois les ordres de grandeur qu'on peut évoquer. Donc ça veut dire que sans anticipation, si jamais il faut faire des fois du x2, x4, des ordres de grandeur de ce type-là dans les 10, 15, 20 ans, ça nécessite en tout cas d'augmenter fortement la production, avec donc les problématiques de visibilité pour les acteurs des mines d'investir dans ce type de mines-là, dans un contexte où il y a quand même des incertitudes, par exemple sur les chimies de batterie qui vont s'imposer, et du coup à quel point investir dans une mine, ça va, ils vont être sûrs d'avoir leur retour sur investissement quelque part. Après, quelles sont les exigences environnementales, sociales qu'on met dans l'exploitation de ces mines-là, du coup à quel point il y a une certaine acceptabilité ou pas sur les projets qu'il peut y avoir. Typiquement, la question se pose ou va se poser aussi probablement de plus en plus en France, à quel point on a des nouvelles mines en France et à quelles conditions sociales, environnementales, économiques, de partage des coûts, des impacts et des bénéfices qui peut y avoir à faire ça. Mais donc, il y a des problématiques assez fortes ou des risques, en tout cas, d'augmentation du prix des métaux ou de manque de défauts d'approvisionnement qu'il pourrait y avoir sur soit tous les métaux de ces batteries en même temps, soit sur certains à certains moments, et du coup des réorientations qui se feraient entre les chimies de batterie. Donc c'est assez difficile d'avoir une boule de cristal pour le coup sur ces sujets-là, de savoir comment vont se matérialiser les contraintes. Mais pour moi, c'est assez sûr qu'on aura des contraintes, et en fait on a déjà des contraintes sur certains aspects. Typiquement, l'année 2022, c'était un peu la première année où le prix des batteries était en hausse par rapport à l'année précédente. C'est-à-dire qu'il y a eu des progrès forts sur les batteries, il y a eu des baisses de coûts des batteries extrêmement importantes. C'est pour ça que de plus en plus, l'électrification des voitures ou des transports routiers, notamment, a été de plus en plus envisagée. Mais en 2022, la hausse du coût des matières premières et d'un certain nombre de métaux a fait que le prix a réaugmenté sur cette année-là. Alors 2023, il me semble que ça a rebaissé. Il faudra voir comment ça évolue selon l'évolution du prix des métaux. Mais en tout cas, aussi un autre élément qu'on peut citer sur le fait que le prix des batteries, il est mesuré en général en euros ou en dollars par kilowattheure de batterie, donc la capacité de stockage de la batterie. Mais en même temps qu'on a réussi à baisser le coût des batteries par kilowattheure, on a beaucoup augmenté le nombre de kilowattheures, c'est-à-dire la l'autonomie, la capacité des batteries qu'on mettait dans les voitures. Donc les deux effets ont eu tendance à se compenser en partie, et c'est un peu pareil sur l'impact carbone des batteries. On a eu tendance à faire des batteries de moins en moins émettrices par kilowattheure, mais comme on a cette sorte d'effet rebond, hein, on peut le voir comme ça, à avoir des batteries de plus en plus grosses, eh bien ça peut avoir tendance à se compenser. Donc à l'avenir, encore une fois, c'est à la fois, bah, certes, profiter des avantages technologiques qu'on peut avoir, mais aussi questionner en termes de sobriété. Est-ce qu'au quotidien, on a besoin de voitures qui ont 300-400 km d'autonomie ? Quand l'enquête mobilité des personnes qu'on a en France, la dernière enquête qu'on a, nous montre qu'en moyenne, sur l'ensemble de la population, il y a 6 voyages par an et par personne qui sont à plus de 80 km du domicile. Donc c'est une moyenne sur l'ensemble de la France, et il y a des disparités très fortes sur les voyages à longue distance, notamment en fonction du revenu. Mais ça veut dire que du coup, il y a une grande partie de la population qui est même en dessous des 6 voyages à plus de 80 km du domicile chaque année. Donc ça veut dire qu'on aurait quand même un intérêt à essayer de calibrer nos véhicules, de penser nos mobilités, plutôt sur les trajets du quotidien, en tout cas à éviter les autonomies de 500-600 km. À chaque fois qu'on voit un article de médias qui parle d'autonomie de 1000 km, limite c'est le Graal et c'est génial, etc. Mais c'est, en fait, qui a besoin d'une voiture électrique qui fait 1000 km d'autonomie sans jamais s'arrêter, quoi. Même légalement, faut qu'on s'arrête toutes les 2 heures sur...
On en avait parlé avec Greg de Temmerman sur cet enjeu de flux, ouais, et pas de stock.
Oui, complètement.
Avec Olivier Vidal aussi sur cette question de... Avec une manière de penser, on pourrait avoir une infinité de matériaux, mais au final, la teneur devient de plus en plus faible et du coup, c'est juste les impacts qui sont démultipliés. Et on avait aussi parlé avec un autre chercheur, Karel Van Acker, qui avait fait la prospective de combien de lithium et de métaux on aurait besoin pour faire la transition énergétique en Europe. On était à un facteur de fois 35 pour le lithium, par exemple, d'ici 2050. Donc, on voit qu'on a une nouvelle accélération qui se projette devant nous.
Oui, ça montre que même si jamais on peut le faire, est-ce qu'il faut le faire, quoi, quelque part, d'aller que sur le levier technologique? En tout cas, c'est ça la différence entre le « est-ce que c'est possible, est-ce que c'est souhaitable ?» En tout cas, pour moi, les réponses ne sont pas forcément les mêmes. C'est très difficile de savoir si c'est possible. Mais même si jamais c'était possible, est-ce que c'est souhaitable, quoi? C'est ça qui...
Je veux juste qu'on passe un tout petit moment sur un dernier point qui est celui des imaginaires, celui des prospectives. Tu as bossé sur ces 4 transitions, enfin, ou ces 4 scénarios de transition pour l'ADEME. Donc, génération frugale, coopération territoriale, technologie verte, Paris réparateur. Quel est le rôle de ces prospectives?
L'ambition de ces scénarios, c'était en effet de projeter des avenirs assez différents, assez contrastés, des scénarios assez contrastés sur la manière dont on peut atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Avec des récits qui sont plutôt axés sur la technologie, d'autres qui sont plutôt axés sur la sobriété, les changements dans les modes de vie, etc. Et au-delà des conditions de réalisation, de regarder quels sont leurs impacts aussi, d'un point de vue environnemental, sociétal, social, économique, etc., pour voir aussi quels sont les intérêts ou les arbitrages qu'on doit faire à certains moments dans les décisions. Et ce qui est assez intéressant, c'est de se projeter sur finalement les aspects très concrets de la transition. Alors, combien de véhicules électriques, quelle quantité d'électricité il nous faudra, combien de renouvelables, etc. Mais c'est aussi quel est le récit qui guide tout ça et comment on fait évoluer en effet ces imaginaires et comment on voit par exemple notre rapport à la mobilité à l'avenir, comment évolue notre aménagement du territoire, comment évoluent les types de véhicules qu'on utilise, quel mode on utilise, en tout cas des aspects qui sont bien plus large et qui essaie de regarder comment on fait évoluer tous ces aspects-là à l'horizon 2050. Et en tout cas, ce qu'on voit dans les scénarios sur le secteur des transports, par exemple, c'est qu'il y avait 2 scénarios, donc davantage sur la technologie, qui, eux, ne permettaient pas, par exemple, d'atteindre des objectifs à l'horizon 2030 dans le secteur des transports. Donc c'est en ça aussi où je dis que la sobriété est complètement indispensable pour atteindre ces objectifs, d'autant plus que depuis... on a rehaussé l'ambition à l'horizon 2030. Et donc, pour aider à se projeter et voir à quoi pourrait ressembler notre mobilité, bah c'est un peu ça l'intérêt des scénarios, de voir quel est le potentiel du vélo, quel est le potentiel des changements technologiques, quel est le potentiel du covoiturage, des transports en commun, etc. Comment évolue notre mobilité en lien avec l'aménagement du territoire, l'évolution des modes de vie, etc., pour qu'on puisse aussi développer cette sobriété qui est indispensable. Donc c'est un peu, en tout cas, toutes ces questions-là qu'on a pu poser autant que possible, en tout cas dans ce projet.
Je finis toujours par demander si tu as des recommandations, que ce soit pour un rapport, ce fameux rapport des transitions 2050, ou un livre, ou un film, ou quelque chose que tu aimerais proposer pour continuer un peu les réflexions qu'on vient de lancer maintenant.
Alors, je n'ai pas forcément de suggestion unique sur le sujet. Je pense qu'en effet, se projeter dans les scénarios transition 2050, en tout cas si ça intéresse, de regarder un peu ce qu'on a mis sur la mobilité. L'idée, c'était de vraiment un peu décrire l'évolution de notre mobilité, ces récits qu'on se raconte, à quel point on regarde de manière positive telle ou telle évolution. Par exemple, dans les scénarios très techno, ce qui est vu comme positif, c'est les véhicules autonomes, l'accélération de la mobilité qui est toujours recherchée, etc. Et finalement, dans d'autres scénarios plus de sobriété, bah, qu'est-ce qui guide l'action finalement, ou qu'est-ce qui est vu comme plus positif? C'est la proximité, dans certains cas, le fait de reposer davantage sur l'entraide, sur des ressources locales pour réussir à s'approvisionner aussi d'un point de vue, par exemple, de l'alimentation, le lien avec le transport de marchandises, etc. Donc c'est aussi tous ces éléments-là qui sont étudiés dans ce rapport sur Transition 2050. Et après, peut-être en suggestion, une que j'ai pu donner, mais qui est peut-être un peu plus lointaine, historique, que j'ai pu évoquer sur la vitesse, bah, l'invention de la vitesse de Christophe Studny, qui m'a marqué pour le coup, en tout cas que j'ai beaucoup pu utiliser. Et aujourd'hui, je trouve que ça remet un peu en perspective, par exemple, le fait qu'aujourd'hui, on trouve que ce soit... C'est scandaleux si notre TGV qui nous permet de traverser la France en 3 heures a 10 minutes de retard, quoi. C'est alors qu'à l'époque il fallait 3 semaines pour traverser la France. Donc c'est quelque part aussi, je trouve, de prendre cette perspective historique. Ce qui est intéressant, c'est de voir que certes des fois il y a des choses qui peuvent être vécues comme des sacrifices. Par exemple, si on dit bah, certes sur le transport aérien il va falloir de la sobriété, etc. Ce qui interroge beaucoup aussi les imaginaires, quel est le rapport au voyage, aux destinations lointaines, à la vitesse pour aller à ces destinations-là, etc. Et donc je trouve que ça permet de mettre un peu aussi en perspective les évolutions qu'on a à mener. C'est à la fois des transformations très fortes qu'il faut pouvoir planifier, structurer de manière collective, en même temps qui ne sont pas si insurmontables que ça si vraiment on se met dans cette direction.
Merci à vous toutes et tous. Je vous propose de regarder l'épisode avec Vincent Kaufmann sur la question de ralentissement également de nos vies et de nos villes. Merci Aurélien.
De rien, merci pour l'invitation.